Le journal Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Des dizaines de milliers de manifestants à Nouméa, loyalistes et indépendantistes, s'affrontent en Nouvelle-Calédonie sur l'élargissement du corps électoral. Reportage dans quelques instants. Les fauteuils roulants bientôt intégralement remboursés. C'est un soulagement pour le million de personnes en France qui en ont besoin. À l'étranger, l'inquiétude. Au Proche-Orient, l'état d'alerte en Israël. L'Iran menace des représailles imminentes. L'État hébreu, les États-Unis réitèrent leur soutien à leur allié. Le média Euronews, propriété d'un proche de Viktor Orban, nous revient sur ces révélations avec notre correspondante à Budapest. Et puis à Barcelone, la mairie demande à Google Maps de retirer plusieurs lignes de bus de son service. On vous explique pourquoi à la fin de ce journal.
Marée humaine à Nouméa pour deux mobilisations concurrentes.
Ils étaient, selon la police, 15 000 indépendantistes et 17 000 dans le cortège loyaliste. Les deux camps s'opposent sur la question du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie à l'approche des élections provinciales. Il s'agirait d'intégrer 25 000 personnes supplémentaires aux listes des électeurs, 12 000 natifs et 13 000 non-natifs résidant sur l'archipel depuis plus de 10 ans. Un enjeu de taille en vue d'un éventuel quatrième référendum sur l'autodétermination du territoire. Reportage dans les rues de Nouméa, signé Médico Pechaïsi.
La Marseillaise d'un côté, 1,5 km plus loin, une chanson indépendantiste. Deux manifestations, les partisans pour une Calédonie française pour l'intégration de 25 000 personnes aux prochaines élections provinciales prévues en décembre.
Comme on dit, on est tous ensemble, c'est pour le dégel et il faut que tout le monde puisse voter. Et on est français avant tout.
En face, des militants indépendantistes contre l'ouverture de ce corps électoral.
Donc je suis là depuis 93. Il faut respecter les Kanaks chez eux et leur laisser toute la place qu'ils se doivent et reconnaître le fait que nous sommes des accueillis.
Des manifestants venus à travers toute la Calédonie avec deux visions différentes, devant un même interlocuteur, l'État.
On avait besoin de se faire entendre à Paris, de faire entendre que on veut le dégel du corps électoral, on veut vivre ensemble, on veut la démocratie tout simplement.
On veut le retrait du texte tout simplement parce que nous ne voulons pas être noyés chez nous. En fait, on sera minoritaire chez nous.
Deux mobilisations dont le calme avec un message commun, ensemble, dans la paix. Même si les tensions devraient persister jusqu'au vote du texte portant sur le dégel du corps électoral, c'est à l'Assemblée le 13 mai prochain, reste maintenant à savoir si le message a été entendu jusqu'à Paris.
Médico Pechaïsi de la première pour France Culture. Un texte complexe et fourre-tout censé tout clarifier. C'est le cœur du projet de loi simplification présenté le 24 avril prochain au Conseil des ministres. Il est censé alléger des procédures, éliminer plusieurs contraintes rencontrées par les entreprises au quotidien, à commencer par les TPE et les PME. Le texte contient également plusieurs mesures de simplification du droit minier. Bruno Le Maire l'a annoncé hier. Objectif, accélérer le recours à la géothermie ou aux gisements de minerais et de métaux stratégiques comme le lithium ou le cuivre, précieux pour la transition énergétique. Julie Paco.
Le gouvernement souhaite en effet diviser par deux les délais d'octroi de permis de recherche des ressources minières qui prennent théoriquement entre 16 et 18 mois. Pour cela, les consultations obligatoires sur chaque projet piloté par les préfets auprès des services de l'État, puis des collectivités, puis du public, seront menées en parallèle afin de gagner 6 à 9 mois d'instruction. Simplifier donc les procédures pour accélérer le recours à ces ressources présentes dans notre sous-sol et indispensable pour atteindre la neutralité carbone, estime Bercy, qui rappelle les objectifs. Augmenter de 40% le nombre de projets de forage géothermique d'ici 2030, technologie qui vise à capter l'énergie thermique du sous-sol et des nappes d'eau souterraines, et dans le même temps, produire 10 à 15 000 tonnes de lithium métal par an, hors recyclage, pour répondre aux besoins en fabrication de batteries des véhicules électriques. Cette production domestique, qui vise à renforcer l'attractivité et la souveraineté de la France, souligne Bercy, suscite déjà la colère des associations environnementales, qui s'inquiètent également d'une autre mesure contenue dans ce projet de loi, la possibilité de transformer de vieux puits pétroliers en sites de stockage de CO2 pour les industries ne pouvant pas limiter leurs émissions, comme les cimenteries. Une solution de décarbonation en dernier recours, précise le ministère de l'Économie, mais non sans danger, d'après les défenseurs de l'environnement.
Vrombissement de contestation dans plusieurs villes de France. La Fédération française des motards en colère appelle à manifester pour dire non au contrôle technique obligatoire des deux roues motorisées. La mesure entre en vigueur à partir de lundi prochain et l'organisation juge ce contrôle trop cher et inutile. Des rassemblements sont prévus notamment à Paris, Toulouse ou encore à Reims.
C'était une promesse d'Emmanuel Macron, cela a été confirmé cette semaine. Les fauteuils roulants neufs seront entièrement remboursés d'ici la fin d'année.
Car aujourd'hui, les patients qui en ont besoin doivent payer un reste à charge en moyenne de 900 euros. Et pour 60 000 personnes, le reste à charge dépasse même les 5 000 euros. Cette annonce, c'est donc un soulagement pour les premiers concernés, Talita Thierro.
Suite à un accident de la route, Pascal Rib est devenu paraplégique. Cela fait maintenant 43 ans que la présidente d'APF France Handicap est en fauteuil roulant. Tenant à son autonomie, elle a choisi un modèle manuel avec un alliage léger.
Je peux mettre moi-même dans la voiture, j'ai pas besoin d'aide pour pouvoir le manier. C'est uniquement ce genre de fauteuil que je peux manipuler en étant autonome.
Mais cela a un coût, aux alentours de 10 000 euros. Ce remboursement est donc une bonne nouvelle pour Pascal Rib.
C'est quelque chose qu'on demande depuis très très longtemps parce qu'on est peu à pouvoir se payer le reste à charge qui est important. On était en train de limiter à la fois la possibilité de choix pour les personnes et à la fois cantonner l'absence de reste à charge à certains types de fauteuils dont la plupart n'ont pas besoin. Ça veut dire que vous condamnez la personne à rester chez elle, à ne pas pouvoir sortir, à être totalement dépendante de quelqu'un. Enfin bon.
Mais certains n'ont pas les moyens de se payer du neuf. Or, la mesure ne concerne pas la seconde main. Un marché pourtant en plein boom, où les fauteuils roulants peuvent être jusqu'à 50% moins chers, ce que regrette Philippe Robin, directeur général d'Envie Autonomie.
Nous distribuons des fauteuils pour des personnes qui n'ont pas accès au système de santé, donc qui n'ont pas accès à cette prise en charge. Qu'un public, je vais dire, hors système, entre guillemets. Quand on utilise un fauteuil roulant manuel de seconde main, c'est 97% de CO2 en moins qu'un fauteuil neuf. Vu les enjeux aujourd'hui d'économie et les enjeux autour de l'environnement qu'il y a en France, les besoins nécessaires dans le secteur de la santé, pour nous, c'est incompréhensible que dans ça, on ne parle que du matériel neuf.
Dans les magasins d'Envie Autonomie, la vente de fauteuils roulants de seconde main croît de 50% chaque année.
Des besoins en hausse, car aujourd'hui en France, 1 million de personnes ont besoin d'un fauteuil roulant et ce nombre va augmenter sans doute dans les années qui viennent avec le vieillissement de la population.
France Culture, il est 8h07, le journal Diane Berger et l'inquiétude dans la communauté internationale. Un nouveau front pourrait s'ouvrir au Proche-Orient.
Le président américain Joe Biden s'attend à ce que l'Iran passe à l'action bientôt. Les tensions montent depuis plusieurs jours avec Téhéran après une attaque du consulat de la République islamique en Syrie attribuée à Israël. Et en Israël, c'est l'état d'alerte. On s'attend à une attaque imminente, Michel Paul.
Les responsables militaires israéliens l'ont réaffirmé hier soir. L'armée est prête à répondre à tous les scénarios face à la menace d'une attaque majeure depuis l'Iran ou ses alliés dans la région. Et les médias ici citent les informations en provenance des États-Unis. On s'attend, selon les renseignements américains, à une attaque menée par une centaine de drones et missiles de croisière visant des cibles multiples en Israël qui pourraient se dérouler pendant le week-end. Le porte-parole de l'armée israélienne, le général Hagari, souligne qu'à ce stade, il n'y a pas de changement dans les directives de la défense passive, mais dans le même souffle, il demande à la population israélienne de rester vigilante car, dit-il, la défense aérienne, aussi bonne soit-elle, n'est pas hermétique. On parle également d'une coordination renforcée entre Israël et les États-Unis. Le chef du commandement central américain, le CENTCOM, le général Michael Eric Urila était en Israël hier pour une évaluation conjointe de la situation et le porte-avions américain à propulsion nucléaire Eisenhower a été redéployé dans la mer Rouge à proximité des côtes israéliennes.
Les explications depuis Jérusalem de Michel Paul de RFI pour France Culture. Par ailleurs, hier soir, le Hezbollah libanais, allié de Téhéran, a tiré une dizaine de roquettes vers le nord d'Israël. Aucun blessé n'a été recensé pour l'instant.
Le chancelier allemand Olaf Scholz entame ce samedi une visite de 4 jours en Chine.
Un déplacement délicat sur fond de relations commerciales particulièrement tendues en ce moment entre Pékin et l'Union européenne. Olaf Scholz va devoir se livrer à un exercice d'équilibriste. Les Allemands restent très dépendants de la Chine sur le plan économique, mais ils doivent aussi suivre les lignes défendues par l'Europe. Sébastien Berriot.
En 2022, le chancelier Scholz avait été le premier grand dirigeant occidental à revenir en Chine après le Covid. Une visite qui, à l'époque, avait fait l'objet de nombreuses critiques dans le camp européen. Olaf Scholz avait été accusé de vouloir faire cavalier seul pour défendre l'économie allemande en laissant volontairement de côté les sujets sensibles, notamment la proximité des Chinois avec Vladimir Poutine. Cette fois aussi, il sera beaucoup question d'économie. Le chancelier arrive avec une délégation de grands patrons. Avant de rencontrer Xi Jinping mardi à Pékin, il doit visiter plusieurs entreprises allemandes à Chongqing et à Shanghai. Olaf Scholz sait que ses faits et gestes seront observés de près par la Commission européenne qui, au contraire de l'Allemagne, a choisi la manière forte en lançant plusieurs enquêtes anti-subventions contre la Chine. Les Européens ne veulent pas couper les liens avec Pékin, mais défendent la doctrine du de-risking, réduire les risques et la dépendance vis-à-vis de la Chine. Le chancelier va tenter un exercice délicat en jouant sur deux tableaux, ne pas froisser d'un côté son premier partenaire commercial, tout en restant dans la ligne défendue par l'Union européenne.
La communauté des Caraïbes se réjouit d'un nouveau départ en Haïti après la création du Conseil présidentiel de transition. Le Premier ministre Ariel Henry a signé le décret après des semaines de négociations et d'attentes. L'organe comprend 9 membres de différentes tendances politiques. Sa mission sera de tenter de rétablir l'ordre et la stabilité dans le pays ravagé par la violence des gangs.
Étrange tour de passe-passe que celui derrière le rachat d'Euronews.
La chaîne d'information européenne en déficit depuis des années. Son ancien propriétaire, un magnat égyptien, l'a revendu en 2022 à un fonds d'investissement portugais. Or, plusieurs médias d'investigation viennent de le révéler. Derrière ce fonds et ce rachat, on trouve en fait la main du Premier ministre hongrois, l'ultranationaliste Viktor Orban. Les explications depuis Budapest de Florence Labruyère.
Officiellement, Euronews a été racheté par la société portugaise Alpac. Alpac, dont le directeur est un ami de Viktor Orban, a bénéficié de capitaux hongrois. C'est ce que viennent de révéler des médias d'investigation hongrois et portugais associés au journal Le Monde. Le gouvernement de Viktor Orban a investi au moins 58 millions d'euros dans l'opération. Cette somme vient d'un fonds d'État hongrois, contrôlé par Orban, et d'une entreprise proche de son clan. Cela représente au moins un tiers des fonds qui ont servi à acquérir la chaîne d'info européenne. L'objectif est d'atténuer les idées de gauche dans le journalisme, dit un document confidentiel du gouvernement hongrois, dévoilé par le collectif de journalistes. Viktor Orban a déjà pris le contrôle de la majorité des médias dans son pays. Il les a transformés en machines de propagande qui diffusent un narratif pro-russe. D'autre part, des proches d'Orban ont aussi investi dans des médias ultra-conservateurs en Serbie et en Slovaquie, deux pays où l'homme fort de Budapest veut exporter son modèle illibéral. Aujourd'hui, Viktor Orban vise plus haut, il cherche à étendre son influence en Europe. Fondée il y a 30 ans, Euronews, la petite sœur de CNN, est diffusée dans 400 millions de foyers, répartis dans 160 pays.
Et dans un communiqué publié hier soir, la direction d'Euronews répond ne pas avoir connaissance du détail de l'actionnariat du fonds contrôlant l'entreprise, mais elle conteste toute idée ou suggestion d'ingérence éditoriale dans sa mission d'information. Enfin, l'histoire pourrait paraître anecdotique, mais elle en dit long sur l'état du tourisme de masse sur la côte espagnole. À Barcelone, la mairie a fait disparaître de l'application Google Maps les lignes de bus les plus empruntées par les vacanciers. Objectif, garantir aux habitants l'accès aux transports en commun de leur ville et leur permettre de se réapproprier leurs bus de quartier. À Barcelone, le reportage de notre correspondant Henri de Laguérie.
Le petit bus rouge et blanc de la ligne 116 monte dans les ruelles escarpées d'une colline de Barcelone. La direction, le Parc Güell, le célèbre jardin dessiné par Antoni Gaudí. À l'intérieur, il n'y a pas grand monde, mis à part quelques personnes âgées. Depuis que la ligne a disparu de Google Maps, les touristes se sont volatilisés, se réjouit Anita. Elle habite dans le quartier et prend ce bus tous les jours.
Il y a beaucoup moins de monde. Les personnes âgées peuvent s'asseoir. C'est confortable. Bref, c'est beaucoup mieux. Une grande idée. Avant, c'était impossible de monter dans le bus. C'était intenable.
Les touristes ignorent désormais l'existence de ce petit bus. Ils prennent le métro et marchent ensuite une dizaine de minutes pour arriver à l'entrée du parc. Cette mesure aussi originale qu'efficace est plutôt bien comprise par Stéphane. Il est originaire de Montréal.
On fait partie du problème, on est là, mais on se rend compte que c'est un problème aussi. Donc, on se dit s'il y a moyen que les habitants locaux puissent s'en tirer sans qu'on les dérange trop, oui. C'est une bonne idée, je pense. Si j'étais local, j'aimerais pouvoir prendre un autobus pour me rendre au travail ou chez moi, là, sans être surbondé, oui.
Cet été, les lignes de bus les plus saturées, celles qui mènent à la plage, pourraient également disparaître de Google Maps et des applications de mobilité.
C'était un reportage à Barcelone de notre correspondant Henri de Laguérie. Enfin, le ciel de ce samedi 13 avril s'est ensoleillé et des températures très élevées pour une mi-avril. Les minimales vont de 6 à 11 degrés ce matin et cela va monter rapidement au-dessus des 20 degrés sur une majeure partie du pays, voire même jusqu'à 30 degrés dans le sud, en particulier sur la côte méditerranéenne. Les seuls qui échappent à cet avant-goût de vagues de chaleur, ce sont les habitants des côtes bretonnes et de la Manche, où il fait plus gris et les températures là-bas n'excéderont pas les 18-19 degrés.